Aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles et étudier ensemble dans l'Évangile selon Jean. Et mon texte se trouve du verset 19 jusqu'au verset 28. Il s'agit ici du témoignage de Jean-Baptiste. Si nous voulons savoir comment reconnaître un serviteur de Dieu, quelqu'un que Dieu lui-même a suscité et envoyé pour prêcher l'Évangile, je crois que nous ne pouvons pas avoir un meilleur exemple que celui de Jean-Baptiste, parce que le verset 6 de Jean 1 nous dit effectivement qu'il était un homme envoyé de Dieu. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup qui se disent envoyés de Dieu, mais comment reconnaître ceux qui sont véritablement envoyés de Dieu? Alors, nous avons les Écritures pour nous aider à discerner la différence entre ceux qui sont vrais, véritablement envoyés de Dieu, et ceux qui sont faux, les faux prophètes. Et nous savons aussi, selon l'épître de Jean qu'il a écrit, qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui sont venus dans le monde. 1 Jean 4 et le verset 1 nous avertit de cela. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Non seulement venus dans le monde, mais beaucoup de fois sortis des assemblées où l'Évangile est prêché. Mais ce sont des gens qui renoncent cet Évangile pour prêcher autre Évangile. Non pas qu'il y a un autre Évangile, comme Paul dit dans Galates chapitre 1, mais il y en a qui veulent pervertir le véritable Évangile. Alors, ici, dans Jean chapitre 1, à partir du verset 19, nous avons le témoignage de Jean. Il y a l'apôtre Jean qui a écrit cet Évangile, mais il y a aussi Jean-Baptiste, qui est celui qui a précédé le Seigneur Jésus, a annoncé sa venue, mais qui n'a jamais écrit un livre de la Bible. C'est selon la souveraineté de Dieu que ceux qui ont écrit ces paroles inspirées ont été choisis. Pourtant, Jean-Baptiste avait un rôle très important. Et donc, c'est de lui que l'apôtre Jean écrit ici, dans Jean 1, le verset 19, « Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu ? » Il déclara et ne le lia ni à point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc ? Es-tu Élie ?» Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ?» Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu ? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ?»« Moi, dit-il, verset 23, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Alors voilà le texte que nous avons à étudier ensemble aujourd'hui. Donc, voici le témoignage de Jean, Jean-Baptiste, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ?» Il faut savoir que ces Juifs, sacrificateurs, Lévites et les pharisiens, tous s'attendaient à la venue d'un Messie, selon ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Mais ils étaient encore aveugles, ne sachant pas qui était celui qui devait venir. Et lorsque le Seigneur a suscité Jean-Baptiste, alors ils ont commencé à se demander est-ce que lui, Jean-Baptiste, était celui qui devait venir. Alors ça, c'est le premier témoignage que nous voyons ici, que Jean-Baptiste déclare, il témoigne qu'il n'était pas le Christ. Le verset 20 nous dit, il déclara et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. La manière que cela est écrit avec force nous montre combien c'est dangereux pour un prédicateur de Dieu d'avoir les regards des hommes sur eux. Nous devons prêcher Christ, mais nous ne devons jamais laisser les gens imaginer que c'est nous qui sommes les médiateurs entre eux et Dieu. Il y en a qui prêchent de cette manière, ils prêchent comme si il n'y a pas de bénédiction si ça ne vient à partir de leur ministère des hommes. Mais Jean-Baptiste ne voulait pas que les regards soient sur lui. Il déclara, prêcher l'évangile est une déclaration de la vérité telle que c'est révélée en Jésus-Christ. Alors, il dit, je ne suis pas le Christ. Pour moi, quand on voit un homme qui ne cherche pas la gloire et qui vise seulement la gloire de Christ, nous pouvons savoir qu'un tel n'est pas un imposteur. Il avait certainement une grande place dans l'histoire de la rédemption parce que la Bible disait qu'il devait venir dans le monde et dévancer le Seigneur Jésus et préparer le chemin, tel était son rôle. Mais en faisant cela, il n'a jamais essayé d'établir un ministère à son propre nom, comme beaucoup de prédicateurs font aujourd'hui. Ils établissent des ministères et puis ils mettent leur nom sur ces ministères pour se donner de l'importance. Mais tel n'est pas une caractéristique d'un serviteur de Dieu. Il témoignait qu'il n'était pas le Christ, disant que les regards des gens devaient être sur Christ et non pas sur lui. Alors, je crois que nous avons ici un exemple qui montre que tous ceux qui sont véritablement à Dieu, et surtout ceux qui prêchent fidèlement l'Évangile ne doivent pas recevoir l'honneur et la gloire, mais tout cela, ils remettent à Christ. Ils déposent tous ces honneurs aux pieds de Jésus. Et donc, c'est une marque imminente du véritable esprit d'un ministre de l'Évangile. Mais deuxièmement, il dit aussi qu'il n'était pas Élie. Peut-être que cette partie peut surprendre certains qui ne connaissent pas assez bien l'histoire de l'Ancien Testament. Mais les Juifs s'attendaient à ce qu'Élie apparaisse avant l'arrivée du Messie. Alors, nous voyons, par exemple, dans Matthieu chapitre 11 et le verset 14, un exemple de cela. Alors, ça peut peut-être poser la question d'où est venue cette idée qu'Élie devait venir et apparaître avant l'arrivée du Messie. Rappelons-nous qu'Élie était un de ces prophètes dans l'Ancien Testament qui n'est pas mort. C'est le Seigneur qui l'a transporté au ciel sans qu'il ne voie la mort. Alors, beaucoup s'imaginaient alors que c'est lui qui devait revenir sur la terre pour préparer le ministère de Christ. Et dans Matthieu chapitre 11, Christ a dit ceci, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Alors je crois que le Seigneur Jésus lui-même nous donne cette interprétation, que quelles que soient les prophéties de l'Ancien Testament, et surtout cette prophétie venant de Malachie chapitre 4, et nous allons voir ça maintenant, mais Christ lui-même nous dit que tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean, et dit, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Alors la question est de savoir si Christ lui-même est en train de contredire le témoignage de Jean-Baptiste. Parce que quand on a demandé à Jean-Baptiste dans le verset 21 de notre texte, « Quoi donc, es-tu Élie ?» Il dit, « Je ne le suis point. » Mais dans quel sens, alors, est-ce qu'il est l'Élie qui devait venir? Il n'était pas physiquement l'Élie. C'est ça que Jean-Baptiste était en train de leur dire. Pourtant, dans son rôle, il était en train d'accomplir ce qui était prophétisé, par exemple, dans Malachie chapitre 4 et le verset 5. C'est Malachie qui était un des derniers prophètes de l'Ancien Testament. Il faut dire que Jean-Baptiste était le dernier. Quoique nous le voyons ici dans le Nouveau Testament, il était le dernier prophète de l'Ancien Testament à venir. Et dans Malachie chapitre 4 et le verset 5, nous lisons, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Alors vous pouvez voir par là pourquoi les pharisiens et les lévites, les scribes, autres, posaient cette question. Ils voulaient savoir si Jean-Baptiste était effectivement Élie dans la chair. Mais Jean-Baptiste a dit vrai qu'il n'était pas Élie, mais en comprenant maintenant ce que Christ a dit, est-ce que nous devons chercher toujours un jour où Élie va venir? Parce qu'il y en a même dans le christianisme qui prêche qu'un jour viendra à la fin du temps où Élie doit revenir. Il y en a qui disent qu'il est un de ces deux témoins qui est cité dans le livre de l'Apocalypse. Mais nous devons comprendre que la prophétie annoncée dans Malachie chapitre 4 verset 5 était réalisé dans la personne de Jean-Baptiste et dans l'esprit, spirituellement, parce qu'il y a des prophéties qui sont accomplies littéralement, cela veut dire naturellement, physiquement, mais il y a des prophéties aussi accomplies spirituellement. Mais nous devons comprendre que cette prophétie de Malachie chapitre 4 et le verset 5 est accompli, parce que Christ lui-même nous l'indique ici dans Matthieu chapitre 11 et le verset 14. Si vous voulez le comprendre, c'est lui, cela veut dire Jean-Baptiste qui est l'Élie qui devait venir. Et puis le verset 15 dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà la signification spirituelle. Il faut que Dieu nous donne des oreilles pour entendre. Alors, c'est pourquoi je crois les Juifs ont raté la venue de Christ, puisqu'ils n'ont pas vu cet accomplissement naturellement devant leurs yeux, donc ils ont alors rejeté le Christ. Mais pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, nous savons que c'est accompli en Jean-Baptiste qui a précédé le Seigneur Jésus. Mais aussi, quand il pose la question et demande s'il est le prophète, es-tu le prophète? Et il répondit non. Il y a beaucoup de commentaires aussi à ce sujet, parce qu'il y avait cette croyance parmi les Juifs que lorsque le Messie devait venir, Jérémie le prophète allait revenir avant sa venue, et pour eux, c'était pour montrer où était caché l'arche de l'Alliance de l'Ancien Testament qui était dans l'Ancien Temple, que selon la tradition, Jérémie a emmené avec lui en Égypte lorsque Babylone est venue détruire le temple Nebuchadnezzar. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve l'arche de l'Alliance qui était à l'époque. Alors, ils imaginent que c'est Jérémie qui devait revenir et montrer où était cachée cette arche pour établir maintenant les sacrifices dans le temple. Mais encore, nous savons que lorsque Christ est venu dans le monde, il est venu pour accomplir tout ce qui concernait cet ancien temple. Et les sacerdoces, les sacrifices, les sacrificateurs, tout était accompli dans la personne de Jésus-Christ. Donc, on ne devait pas chercher autre accomplissement que ce que Christ lui-même est venu accomplir. Vous voyez dans Matthieu chapitre 16, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'opinions aujourd'hui au sujet de Jésus, comme à l'époque. Et c'est pourquoi Christ lui-même a posé la question dans Matthieu chapitre 16 et le verset 14, surtout verset 13, lorsqu'il a posé la question, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Et verset 14, il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. » C'est intéressant parce que au début, on posait la question à Jean-Baptiste, « Est-ce que tu es le Christ ?» Et maintenant, ils disent du Christ que Christ est Jean-Baptiste. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment, Jean-Baptiste avait déjà été décapité. Il est mort comme martyr à cause du témoignage de Christ. Alors, quand Christ a commencé à faire ses miracles et en public prêcher que le royaume de Dieu était venu, alors ils ont commencé à poser la question, donc est-ce que Christ est Jean-Baptiste revenu à la vie, ou bien les autres, Élie, et voilà, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes? » Alors, c'était la réponse que les disciples ont donnée lorsque Christ a posé cette question. Et c'est une bonne question, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se disent chrétiens, mais on doit toujours aller un peu plus en profondeur quand ils témoignent qu'ils sont chrétiens, de savoir que dit-il de Christ, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Et nous savons que nous aurons beaucoup de réponses. Ce n'est pas tous ceux qui disent du Christ qu'il est Seigneur qui rentreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui, comme Christ dit, font la volonté du Père. Quelle est la volonté du Père? C'est de croire en celui que Dieu lui-même a envoyé, le véritable Christ. Donc, il nous faut du discernement et ne pas simplement accepter que quelqu'un est chrétien simplement parce qu'il prononce le nom de Christ. Qui est-il? Et c'est pourquoi Christ lui-même a précisé dans le verset 15 de Matthieu 16, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux. » Ce mot est le mot « béni ». Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors, connaître Christ en vérité, c'est une révélation de Dieu par son esprit de grâce. Et si je le connais aujourd'hui, si je l'annonce tel qu'il est révélé ici dans les Écritures, c'est à cause de cette révélation en moi. Comme Paul a dit, lorsqu'il a plu à Dieu de révéler Christ en lui, c'est par là que nous connaîtrons Christ véritablement. Il y en a, quand il pose la question, est-ce que tu es le prophète? Ils imaginent que là, c'est lorsque Moïse, dans Deutéronome chapitre 18 et le verset 15, a annoncé, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. Moïse parlait du Christ, mais pour ces hommes religieux, ils cherchaient peut-être quelqu'un d'autre qui devait venir avant Christ. Alors, il témoignait qu'il n'était pas le Christ, on a vu cela, il témoignait aussi qu'il n'était pas Élie ou un des prophètes. Et cela nous fait venir maintenant au troisième point concernant le témoignage de Jean-Baptiste, et c'est de savoir qu'il témoignait comme étant la voix qui criait dans le désert. Ça, c'est dans le verset 22 de notre texte, dans Jean 1, verset 22-23. Encore, les gens posent ces questions. Ils s'approchaient des Écritures, ils s'approchaient ce sujet d'une manière intellectuelle pour essayer de mieux comprendre la situation, comme beaucoup font aujourd'hui. Sans l'Esprit de Dieu, les écoles de théologie sont pleines de professeurs qui aiment passer le temps à étudier ces choses et comprendre la situation des caractères dans la Bible, comprendre les prophéties et donner des réponses. Alors, ces hommes qui sont venus étaient envoyés par des hommes religieux, ils étaient eux-mêmes des hommes religieux et ils cherchaient à comprendre ces choses d'une manière théologique. Mais, encore, il posait la question à Jean-Baptiste, il lui dit alors, « Qui es-tu ?» afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont été envoyés. C'est clair par là qu'ils posaient la question non parce qu'ils étaient envoyés par l'Esprit, parce que tous ceux que l'Esprit attire seront véritablement attirés à lui et non pas à un homme. Mais ici, ils voulaient encore insister sur Jean-Baptiste. J'ai souvent des gens qui s'étonnent que je ne suis pas attaché à une organisation religieuse, mais ils me poursuivent toujours pour savoir, ils pensent que je suis en train de cacher quelque chose. Quand je leur dis que je suis serviteur de Christ, et ils disent non, mais donc quel est le nom de ton église? Quand je dis Shreveport Grace Church, puisqu'il n'y a pas dans le titre une dénomination quelconque, ils disent, ah, donc, vous n'avez pas de dénomination. Et aujourd'hui, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de dénomination, souvent, alors, ça signifie que vous êtes charismatique. Parce que les pentecôtistes aiment se présenter de cette manière, qu'ils ne sont pas attachés. Ils sont pentecôtistes, ils sont attachés à l'église du premier siècle, etc. Mais même eux, ils se trompent parce qu'ils font de l'Esprit de Dieu leur point de gloire et non pas le Seigneur Jésus tel qu'il est révélé dans les Écritures. Mais les gens nous poursuivent. Ils ne sont pas satisfaits d'une réponse qui dit que nous sommes simplement ministres du Seigneur Jésus et aussi pour ceux qui sont véritablement enfants de Dieu. Ils ne portent pas une dénomination pour dire baptiste, pour dire protestant, pour dire quoi que ce soit. Non. Nous sommes à Christ. C'est en effet le mot chrétien. Dans le mot chrétien, la première partie signifie celui qui appartient au Seigneur Jésus-Christ. Mais les gens ne sont pas satisfaits. Ils veulent aller plus loin. Et je dois dire, de la manière que Jean-Baptiste répond ici, ça nous donne un exemple. Nous ne devons pas chercher à satisfaire ces intérêts des gens, mais simplement répondre selon les Écritures. Et c'est pour ça, dans sa réponse, quand ils ont dit, que dis-tu de toi-même? Il n'a pas saisi cette occasion maintenant pour donner l'histoire de sa vie et encore tirer la gloire sur lui, non. Il dit dans le verset 23, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Donc en cela, nous voyons encore une caractéristique de quelqu'un qui est envoyé de Dieu, qui est un véritable serviteur de Dieu. Il base chaque réponse sur ce que dit les Écritures. Et surtout dans le cas de Jean-Baptiste, il cite le prophète Ésaïe. Et le passage dont il cite ici, quand il dit « aplanissez le chemin du Seigneur » comme a dit Ésaïe le prophète, se trouve dans Ésaïe chapitre 40 et le verset 3. Je dis souvent que le prophète Ésaïe était l'apôtre Paul de l'Ancien Testament. Et le livre que porte son nom est comme le livre de Romains dans l'Ancien Testament, parce que du début jusqu'à la fin, c'est la doctrine de Christ qui est annoncée. Pourtant, à l'époque où Ésaïe prêchait, il n'y avait pas de croyants que Dieu a suscité à son jour. Dieu lui-même a dit ça à Ésaïe en le suscitant, que les gens allaient entendre, cela veut dire avec leurs oreilles physiques, mais sans entendre. Dieu est souverain, il est capable de faire en sorte que les gens entendent ou pas. Mais nous pouvons dire en lisant dans le Nouveau Testament que le prophète Isaïe était souvent cité comme annonçant le Christ qui devait venir. Et ici dans Isaïe 40 et le verset 3 est un exemple. Et ça serait bien si le Seigneur nous donne le temps de lire tout le chapitre. Mais ça commence dans le verset 1, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Comment est-ce que le peuple du Seigneur est consolé? Verset 2, « Parlez au cœur de Jérusalem. » Ce n'est pas simplement de parler à l'intelligence des hommes, non, parlez au cœur de Jérusalem. Ça représente le peuple choisi de Dieu, pour qui Christ devait venir mourir, et criez-lui. Voici encore, nous voyons que prêcher l'Évangile n'est pas d'organiser des discussions et partager des opinions. Non, c'est d'annoncer, c'est de crier, c'est de parler au cœur de ceux que le Seigneur attire pour écouter. Et de dire que sa servitude est finie. Alors, quelqu'un qui lit ça des yeux naturels pouvait peut-être imaginer, il s'agit alors de Jérusalem physique maintenant où leur captivité est finie. Mais notez la phrase suivante. Il faut toujours lire ces choses dans le contexte. Et là, c'est écrit que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Cela ne pouvait être accompli nulle part autre que dans la mort du Seigneur Jésus, parce que c'est dans sa mort que les péchés ou bien l'iniquité étaient expiés, enlevés, pardonnés. Ce n'est pas le sang des boucs et des agneaux qui pouvaient ôter le péché. C'était simplement une couverture jusqu'à ce que Christ vienne. Alors tout cela et cette consolation, ce message de consolation, parlait au cœur du peuple de Dieu que sa servitude est finie, était la manière que l'Esprit de Dieu est en train de viser la venue du Seigneur Jésus pour accomplir le salut, et de dire à ceux qui l'attendent qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Ça, c'est une manière de parler pour dire que les péchés sont complètement enlevés, pardonnés. C'est pourquoi Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis une voix crie, et voici le passage dont Jean-Baptiste prend pour appliquer à lui-même, ouais. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Cela nous montre que celui qui devait venir dans la chair n'était autre que Dieu, parce que c'est écrit, d'aplanisser les lieux arides, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, et que les coteaux se changent en plaine, et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Quelle est la gloire de l'Éternel, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ? C'est de lui que Jean disait dans Jean 1 et le verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Et Jean dit qu'en lui, nous avons vu la gloire de Dieu, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça, c'est dans Jean 1 et le verset 14. Alors, c'est sur ce verset que Jean-Baptiste se base alors pour dire qu'il est cette voix dans le désert. Une seule voix. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voix de gens qui prêchent, mais qui sont ceux qui sont véritablement la voix de l'Éternel, si ce n'est ceux qui annoncent le Seigneur Jésus et tout ce qu'il a accompli. Mais en particulier, cette prophétie était accomplie dans la personne de Jean-Baptiste. Et le sens, là, d'aplanisser le chemin du Seigneur, c'est dans le sens d'enlever tout obstacle dans le cœur des gens et préparer les gens pour l'avènement du Christ. Il était comme un héros devant la roi pour faire des préparatifs pour son avènement. Et Jean-Baptiste faisait ça pour le ministère public du Seigneur Jésus. Mais je dois dire, c'est dans ce sens aussi que tous ceux qui sont ministres du Seigneur aujourd'hui, leur désir, c'est d'adresser tout obstacle qui est dans les cœurs des gens pour préparer, pour chacun soit préparé par l'Esprit de grâce pour la révélation de Christ dans leur cœur. Avant de prêcher la bonne nouvelle au sujet du Christ, il faut savoir que nous devons nous adresser à beaucoup d'obstacles qui existent dans les cœurs des gens, parce que nous sommes tous des idolâtres par nature. Et donc, il faut que l'Esprit de Dieu enlève tout ce qui empêche aux pécheurs de voir et comprendre la gloire de Christ et tout ce qu'il a accompli. Et surtout, cette œuvre au calvaire par laquelle Dieu le Père justifie une fois pour toutes tous ceux pour qui Christ est mort. Les gens vont toujours, dans leur esprit naturel et rebelle, chercher autre voie, comme Adam et Ève dans le jardin. Et nous sommes tous nés fils d'Adam. Donc il faut que l'esprit de la grâce de Dieu nous donne des yeux pour contempler qu'il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre manière que Dieu justifie des pécheurs si ce n'est pas l'œuvre unique du Seigneur Jésus. Alors, Jean-Baptiste témoignait qu'il était cette voix qui criait dans le désert. Et tel est mon désir. Je dois dire que c'est véritablement un désert dans le monde aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent ou professent être à Christ et confessent un Jésus, mais le Christ qu'ils confessent n'est pas celui qui est révélé dans les Écritures. Et c'est parce que jusqu'à là, Dieu n'a pas encore révélé son Fils en eux. Mais je préfère être cette voix, comme Jean-Baptiste, qui crie dans le désert et qui n'a qu'un seul message, que Christ est Christ crucifié, que de suivre les voies qui prédominent dans le monde, où chacun a son avis, son opinion, comme nous avons vu en Matthieu 16, disant ceci ou cela au sujet de Jésus. Non, il faut que cette parole soit notre autorité unique et notre guide. Mais finalement, ici dans notre passage, je voudrais souligner que Jean-Baptiste témoignait la signification du baptême dans l'eau par rapport à l'œuvre de Christ. Voilà encore un sujet où il y a beaucoup de confusion. Le baptême, beaucoup me pose cette question au sujet de la signification du baptême dans l'eau. Et heureusement, nous avons les Écritures aussi pour nous aider à répondre. Mais encore dans le verset 24, tout cela était à cause de ceux qui ont été envoyés. Et ici, ça nous dit clairement qu'ils étaient des pharisiens. Nous avons toujours des gens de leur position, dans leur dénomination, qui vont nous poser des questions au sujet de certaines doctrines que nous voyons dans la Bible, ou bien de certaines ordonnances que nous suivons, telles que le baptême. Alors, ils lui firent encore cette question, verset 25. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Il voulait savoir par quelle autorité Jean-Baptiste lui-même baptisait. Le mot baptiser signifie en fait immerser, l'immersion. Pourquoi il immergeait les gens dans l'eau? Alors Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau. » C'est pourquoi il porte ce titre, Jean le baptiseur. Le sens encore, immergé dans l'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Il faut savoir que jusque-là, Jean-Baptiste n'avait pas encore rencontré physiquement le Seigneur Jésus. Nous allons voir dans notre prochaine étude où cela arrive, lorsque Jésus lui-même s'approche de Jean-Baptiste pour être baptisé. Mais l'Esprit avait déjà révélé en Jean-Baptiste ce Christ que lui-même il annonçait. Il faut savoir qu'on ne peut pas prêcher Jésus-Christ véritablement tant qu'il n'a jamais été révélé en nous. Et donc Jean-Baptiste est en train de prêcher ce que lui-même il n'avait pas encore vu de ses propres yeux, pourtant l'Esprit de Christ en lui donnait cette connaissance selon les Écritures. Et je dois dire que c'est de cette manière que ceux qui sont en Christ aujourd'hui croient en lui. Ce n'est pas parce qu'ils ont vu le Seigneur Jésus de leurs propres yeux, mais c'est la révélation de Christ dans leur cœur, selon les Écritures, qu'ils croient et qu'ils confessent ce Seigneur Jésus. Alors, Jean est en train de dire ici, il ne faut pas faire confiance en moi, ni dans les eaux de baptême. Alors encore, nous le voyons en train de mettre les regards sur Christ et non sur lui-même. Parce que ces pharisiens et leurs envoyés voulaient simplement encore insister pour savoir qui est Jean-Baptiste. Donc la question sur le baptême, c'est simplement en rapport avec qui il est. Pourtant, Jean prend leur question pour maintenant ramener le sujet sur le Seigneur Jésus. Il dit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous. Il n'avait même pas encore vu le Seigneur Jésus, mais il annonce déjà sa venue. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Voilà un point qui suscite la colère des hommes religieux, de leur dire qu'il y a un aspect de la révélation de Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et leur dire qu'ils sont aveugles, en fait, encore aveugles. Et Jean-Baptiste dit qu'il vient après moi. Donc il dit, je baptise, bien vrai. Et le but de son baptême, c'était de préparer ceux qui confessaient le Seigneur Jésus qui devait encore venir. Aujourd'hui, le baptême dans l'eau est pour confesser le Christ qui est déjà venu et qui a déjà accompli ce salut dans sa vie et sa mort. Mais c'est le même objet. Le but de la confession dans l'eau, du baptême dans l'eau, c'est le même Christ et son œuvre accomplie. Il n'y a pas autre raison d'être baptisé si ce n'est de confesser le Christ qui devait venir, qui est venu et qui accomplit le salut conformément à tout ce que Dieu a exigé dans sa loi et sa justice. Mais encore, Jean-Baptiste est en train de se minimiser devant les hommes et exalter, élever le Seigneur Jésus devant eux. Surtout lorsqu'il dit là, dans le verset 27, celui qui devait venir après lui, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ça, c'était le rôle d'un serviteur dans une maison, que lorsque un invité venait dans la maison, c'est le serviteur qui devait le déchausser et délier le cordon de la chaussure. C'était la manière d'enlever leurs chaussures. Et Jean-Baptiste est en train de dire, oui, je suis le serviteur de Jésus-Christ, mais je ne suis même pas digne. Il est en train d'insister là-dessus. Qu'il ne faut pas que les regards soient sur moi. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Telle est cette humilité remarquable, je crois, qu'on trouve dans tous ceux qui sont véritablement serviteurs de Dieu ou enfants de Dieu. Nous n'avons pas quelque chose en nous-mêmes pour nous glorifier devant Dieu ou devant les hommes, mais que tout l'honneur soit à Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Alors, ça termine en disant que ces choses se passèrent à Béthanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Alors, c'est un grand témoignage et c'est toujours mon privilège de prendre cette parole et de l'annoncer. Ma prière est toujours que le Seigneur Jésus lui-même soit glorifié, tel qu'il est glorifié ici dans les Écritures. Alors, nous allons terminer là par la prière et ma prière c'est que, effectivement, le Seigneur Jésus soit glorifié parmi nous. Prions. Seigneur, je te remercie pour ces moments que nous avons passés dans ta parole. Merci de nous avoir dirigés et merci pour chacun que tu as emmené pour écouter ces paroles. Et nous savons que cette parole n'est jamais prêchée en vain, mais que tu diriges ta parole là où tu as ceux que tu as destinés au salut, les brebis de Christ, pour qui il est venu et donné sa vie. Et donc le salut est sûr et certain à cause de lui. Que nos yeux, nos regards soient sur lui et lui seul. Et pour cela, je te remercie et je te prie de bénir cette parole comme tu veux. Et c'est dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je te prie. Amen.